Le rayon BD, histoire de femmes brillantes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. La semaine dernière, avec Jérôme Dubois et Robin Cousin, nous étions tournés vers l'avenir, vers une possible fin du monde, ou vers un basculement de notre société dans une dimension parallèle. Aujourd'hui, avec les trois autrices que nous recevons, nous tournons nos regards dans l'autre sens, non plus vers ce que demain a à nous dire, mais vers ce qu'hier a à nous apprendre, c'est-à-dire vers l'histoire, vers des histoires même, singulières et personnelles. Celle de James Barry tout d'abord, médecin militaire britannique du 19e siècle, l'un des plus brillants de sa génération, qui a mené une existence romanesque entre l'Inde, l'Afrique du Sud, la Jamaïque et le Canada, et dont on a découvert après sa mort qu'il était une femme qui s'appelait en réalité Margaret Ann Bulkley. La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Barry paraît aux éditions Steinkiss. Elle est signée d'Isabelle Beautian et Agnès Maupré. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
L'autre livre dont nous allons parler aujourd'hui nous emmène un siècle plus tard, dans l'Amérique des années 20. Il raconte l'histoire des Radium Girls, c'est le titre de cette bande dessinée, des ouvrières du New Jersey dont le travail consistait à peindre avec une peinture phosphorescente, au radium, des cadrans et des aiguilles de montre, un travail minutieux qui nécessitait de lécher le pinceau avant de le tremper dans la peinture. Ces ouvrières ont ainsi au fil du temps ingéré du radium et ont développé toutes sortes de pathologies, avant de mourir pour la plupart très jeunes, mais non sans avoir mené un combat judiciaire contre leur employeur. C'est l'histoire de quelques-unes de ces femmes que nous raconte Si dans ce très beau livre « Radium Girls » qui paraît chez Glénat. Bonjour Si.
Bonjour.
Le silence sur les femmes est tout à fait assourdissant. D'abord parce qu'elles laissent moins de traces que les hommes. Elles n'étaient pas dans les armées, elles n'ont pas fait de politique, etc. Or, c'est cela que pendant très longtemps, l'histoire a raconté. Les archivistes ont gardé les traces, etc. etc. Ceci étant, à partir du moment où on a fait l'histoire des femmes, entrepris de la faire, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de traces qu'on ne le pensait. Et que simplement, ce n'était pas les mêmes. Et qu'il fallait chercher autre chose. Mais en effet, le silence est assourdissant, manque de traces, manque de considération, vraiment immense. Les hommes publics, quand vous parlez d'hommes publics, c'est magnifique. L'homme public, c'est le sommet de la carrière d'un homme. Si vous parlez de femme publique, c'est une prostituée.
On commence avec la voix de Michèle Perrault, l'une des pionnières en France de l'histoire des femmes et de l'histoire du monde ouvrier également. Ça vous interpelle, Si, ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, elle a raison. Mais on s'est appliqué à les effacer.
Et donc il y a une dimension militante dans le fait de s'emparer d'une histoire comme celle-là, comme celle des Radium Girls que vous racontez. C'est une histoire qui a été longtemps oublié parce qu'effacé.
Ah oui, bien sûr, c'est totalement militant, hein. On peut totalement le dire, hein. Y a pas de souci.
Et votre livre, d'ailleurs, est le premier d'une nouvelle collection qui est donc chez Glénat, la collection Karma, qui est sous-titrée Davy des révoltes. Le prochain titre sera sur Angela Davis et il va y avoir beaucoup de femmes dans cette collection, vous pensez ? Les deux premiers livres sont sur des femmes.
Je l'espère, déjà. Mais bien sûr, les deux premières sont lancées. Il n'y aura pas que des femmes dans cette collection, mais il y aura une parité.
Et pour vous, Isabelle Beautian, le cas de James Barry est un peu différent, puisque Michèle Perrault disait que les hommes étaient dans l'armée. James Barry, justement, il était dans l'armée, il y a des archives, on sait des choses sur lui. Mais alors que la presse a révélé à sa mort qu'il était une femme, ça a fait très peu de bruit, jusqu'à ce que les historiens se penchent sur cette affaire au milieu du XXe siècle, un siècle plus tard. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire connaître cette histoire à un plus large public ?
Bah, moi, c'est un peu comme s'il y avait un côté, militant. Et en fait, quand j'ai découvert pour la première fois l'histoire de James Barry, c'était un petit article sur Internet sur lequel je suis tombée complètement par hasard. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable qu'on n'en sache pas plus sur cette personne avec la vie qu'elle a menée. Bon, après, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être aussi parce que c'est la France et que ça fait partie de l'histoire de l'Angleterre. Enfin, en tout cas, du Royaume-Uni. Mais même au Royaume-Uni, son histoire avait été largement effacée. Donc, je sais pas à quel point c'était une volonté ou un inconscient collectif, parce que même à l'époque, ça a été révélé dans un journal, la brève a été plus ou moins reprise, Enfin, ça s'est très vite éteint. Et alors que c'était, ça me paraît quand même être un scoop assez assez formidable. Et il y a eu quelques articles scientifiques, mais très très peu et très biaisés, qui étaient limite diffamatoires. Et il a fallu, oui, attendre les années 50 pour qu'enfin une personne, Isobel Ray, elle s'appelait, ait commencé à faire un travail un peu exhaustif sur sa vie. Et les années 2000 pour que ce livre d'Isobel Ray soit utilisé et augmenté et qu'il y ait un nouveau travail de recherche refait. Et c'est quand même très très surprenant et un peu scandaleux.
Alors il faut poser d'emblée une question et peut-être se mettre d'accord. Est-ce que vous dites il ou elle quand vous parlez de James Barry, né Margaret Bulkley?
J'ai tendance à dire elle, parce que l'idée c'était justement de raconter l'histoire de cette femme qui a dû se travestir et renoncer à une partie de son identité pour faire ce métier et avoir cette carrière. Après, bon, on peut aussi, je pense légitimement, vu qu'elle a vécu toute sa vie sous le nom de James Barry, on peut très bien dire il, ça ne pose pas de problème particulier.
Oui, et si je vous pose la question, c'est parce qu'elle a pris cette identité masculine sans doute pour travailler, mais qu'elle a choisi et voulu se faire enterrer comme un homme, et sur sa tombe, aujourd'hui, il y a marqué James Barry.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a, de ce fait-là, il y a des personnes qui se sont demandées si elle n'était pas, en réalité, un homme transgenre. Bon, c'est l'argument de la tombe est souvent donné pour soutenir cette thèse. Bon, après, moi, je trouve les éléments un peu légers pour affirmer ça. Après, bon, j'imagine qu'on saura jamais, sauf si de nouvelles sources surviennent. Moi, les quelques experts que j'ai pu consulter, enfin les écrits que j'ai pu consulter ne suivent pas cette hypothèse. Et il y a quand même quelques éléments qui laissent entendre qu'elle n'avait pas totalement renoncé à son genre, enfin à son sexe de naissance et donc à son genre. Après, moi, il semble qu'elle ait voulu ça. Surtout, bon, c'était quand même quelqu'un de très fier et je pense qu'elle, enfin, ce qu'on pense en général, c'est qu'elle ne voulait pas que la révélation de son identité supplante les accomplissements qu'elle avait réussi à faire. Et ce qui est arrivé d'ailleurs, des gens se sont moqués, des gens l'ont diffamé, et voilà.
Et on va parler bien sûr de ces accomplissements, mais pour vous, Agnès Maupré, qui avez dessiné cette histoire de James Barry, vous avez publié il y a quelques années un petit traité de morphologie, donc vous vous intéressez au corps, au mouvement des corps. Comment est-ce que vous avez dessiné James Barry? Est-ce que vous lui avez donné quelque chose de féminin, quelque chose de masculin? Comment vous avez jonglé? Ça bouge pas tout à fait pareil, un homme, une femme?
Sans doute pas, mais après c'est principalement des constructions sociétales. Il y a pas très longtemps, on m'a fait décrire le tableau du Bacchus de Caravage et la personne à qui j'en parlais me disait oui, il est pas très masculin. J'ai dit non, mais c'est pas, enfin, pour moi, il est masculin. Après, il a une masculinité qui est molle et qui est douce. Je pense pas que, par essence, certaines façons de se mouvoir soient masculines et d'autres féminines, mais la société les construit comme telles. Et c'est vrai que dans le cas de James Barry, c'est uniquement une histoire de volonté et qu'elle a vraiment décidé d'endosser cet habit et ce nom d'homme. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle voulait aussi qu'il y ait ce nom d'homme sur sa tombe, parce que ça aurait été renier un choix qu'elle a fait avec les renoncements qu'il impliquait et qu'elle a suivi toute sa vie. Et à mon avis, c'était obligatoire que ce choix la suive aussi dans la mort.
Bon, donc vous êtes toutes les deux d'accord pour dire elle, donc on va dire elle a priori pendant cette émission. Si je fais une erreur, c'est pas
oui.
Trop grave. C'est pas la question.
Oui, mais c'est vrai que finalement ce serait bien d'avoir un neutre pour pouvoir se débarrasser de ces questions-là parfois.
Mais on va raconter un peu son histoire. Donc James Barry est né dans les années 1790, on ne sait pas exactement quand. Ce qu'on sait, c'est que c'est à l'adolescence, vraisemblablement au cours d'un voyage en bateau, qu'elle a endossé une identité masculine avec l'aide de sa mère et de quelques personnes, quelques amis de sa mère qui étaient dans la confidence. James a donc étudié la médecine à Édimbourg. Évidemment, c'était interdit aux femmes à cette époque et est devenu médecin militaire. Mais c'est une histoire pleine de zones d'ombre, Isabelle Bottian.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on pense maintenant, parce qu'en fait, il y a eu un nouveau livre qui a été écrit par Michael Duprez et Jeremy Dronfield, donc c'est celui qui a été écrit dans les années 2000, et eux supposent qu'en fait, elle a été très peu éduquée, alors non pas jusqu'à son adolescence, mais plutôt quand elle était jeune adulte. C'est là qu'elle a rencontré à Londres des intellectuels très progressistes et influencés notamment par les idées féministes, voyant son potentiel, son intérêt, intelligence aurait décidé, avec évidemment son consentement, de l'aider à faire des études et aurait protégé son identité. Donc ça relève de la supposition. C'est disons que cette thèse est supportée par quelques lettres, mais ça relève quand même beaucoup de la supposition. Et effectivement, avec la complicité de sa mère, elle serait allée étudier à Édimbourg, mais elle était nettement plus âgée que ce qu'elle prétendait. En fait, ce qui se passait, c'est que James avait un physique vraiment très féminin, si je puis dire, dans le sens où elle était petite, elle avait des traits très délicats, et en fait, elle aurait menti sur son âge pour se faire passer pour un très jeune homme plutôt qu'une femme. Et donc les gens pensaient que c'était quelqu'un. Alors elle était particulièrement brillante, mais les gens pensaient que c'était un gamin surdoué, diplômé à 13 ans, alors qu'en fait elle était nettement plus âgée que ça.
Oui, parce qu'à 13 ans, si on en croit certaines biographies, elle aurait été déjà médecin à Waterloo, sur le champ de bataille, ça paraît un peu gros. En tout cas, Waterloo, par exemple, ce n'est pas dans votre livre. Vous avez choisi, toutes les deux, enfin vous, Isabelle Bottian, pour le scénario, de centrer sur un moment de la vie de James Berry. C'est le moment où elle est en Afrique du Sud, au Cap, dans les années entre 1815 et la fin des années 1820. Elle y est restée une petite quinzaine d'années.
En fait, au début, j'étais partie pour faire quelque chose d'un peu plus exhaustif, mais je me suis en fait focalisée sur le Cap parce que finalement, étonnamment, parce qu'elle a une vie très aventureuse, sa vie a été quand même assez répétitive. En fait, à chaque fois qu'elle a été postée quelque part, elle est arrivée, elle a constaté que ça n'allait pas du tout, elle a voulu faire des améliorations sanitaires, elle s'est disputée avec son administration, elle a court-circuité la chaîne hiérarchique. C'était quelqu'un d'extrêmement fier et qui était gouverné par les lois de la logique et qui ne comprenait pas qu'il y avait cette espèce de naïveté de certaines personnes hypralogiques, de ne pas comprendre que les gens vont pas être convaincus par les faits, de ne pas comprendre toujours les conventions. Et à chaque fois, ça s'est un peu passé pareil. Elle a eu des problèmes, et puis finalement, ça s'est résolu de justesse. Et dans tous ces postes, c'était un peu comme ça. Donc, en un seul volume, je trouvais que c'était assez répétitif, et je me suis concentrée sur le Cap, parce que c'est aussi là qu'elle a eu les relations les plus intéressantes avec son entourage, notamment avec Lord Charles Somerset, qui était le gouverneur du Cap et qui était son confident. Et ça m'a paru intéressant de travailler aussi sur la relation entre ces deux personnages qui à la fois incarnaient l'importance pour quelqu'un, parce qu'elle n'était pas c'était pas seulement une femme, c'était une Irlandaise catholique de classe moyenne pauvre, et l'importance pour ces personnes d'avoir un protecteur, et en même temps leur relation permettait de montrer tout ce à quoi elle avait renoncé pour cette carrière.
C'est aussi pendant cette période sud-africaine qu'elle a opéré un de ses grands succès pour lequel elle est restée célèbre, c'est-à-dire une des premières césariennes réussies de la chirurgie. Une césarienne réussie, c'est une césarienne dont l'enfant et la mère, évidemment, sortent tous les deux vivants. Mais on sent que, plus qu'un hommage au médecin qu'elle était, en effet, c'est la personnalité de James Berry qui est au cœur de ce livre, Agnès Maupré. Et c'est une personnalité, Isabelle Bottian l'a dit, pour le moins qu'on puisse dire entière. Comment est-ce que vous l'avez, vous, découverte en découvrant ce scénario? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette personnalité qui se bat en duel contre ses amis au duel au pistolet, qui est capable de battre et de demander l'exil d'une religieuse qui découvre son secret? Elle la tabasse, on peut dire. Et
oui, à coup de cravache.
À coup de cravache.
Ce qui est intéressant et contrasté dans ce personnage-là, c'est qu'il y a une dimension romanesque et intense, effectivement, avec ce changement d'identité, avec les duels. Et à côté de ça, c'est vraiment une enquiquineuse rigoureuse dont le but entier de la vie est de faire au mieux son travail. C'est avant tout un excellent médecin avec... un peu un balai qui fait vraiment les choses avec rigueur et avec intensité, qui est capable d'humour parfois et qui manque cruellement d'humour aussi le reste du temps, qui est pas tellement capable d'autodérision. Et du coup, c'est vrai que c'est un personnage plein de relief.
Vous avez évoqué, Isabelle Botian, le gouverneur du Cap, Charles Somerset, qui était son protecteur. Évidemment, on n'a pas manqué du vivant de James Barry et puis par la suite de leur prêter une liaison amoureuse. Vous avez d'une certaine façon tranché, mais c'est de façon assez subtile. Vous avez pris des parties. On a dit aussi, après la mort de James Barry, qu'elle avait eu un enfant. Il semble qu'on n'en soit pas totalement certain. Vous avez dû décider. Comment est-ce que vous avez arbitré?
Alors l'enfant, c'est une quasi-certitude parce qu'elle avait des marques de grossesse sur le ventre et ça a été constaté sur son corps. Et en plus, c'est des marques qui se voient particulièrement dans le cas de grossesse très jeune. Et une hypothèse assez solide, c'est qu'elle aurait été violée par un membre de sa famille très très jeune et qu'elle serait partie accoucher à Londres et qu'il serait revenu donc avec une petite sœur. Et sa mère aurait adopté l'enfant. Après, on ne sait pas trop ce qui est devenu cet enfant. J'ai fait une supposition là-dessus. J'ai supposé qu'elle s'était revue, mais c'était pour des raisons purement narratives. J'ai précisé, on a précisé dans le livre quand on était vraiment sur les faits et sur l'interprétation, parce qu'évidemment son histoire a beaucoup de trous. Donc, y a des fois où on a dû interpréter. Et sur sa relation avec Charles Somerset, oui, il y avait eu ils ont été soupçonnés. Il y avait eu un pamphlet qui avait été publié qui les soupçonnait d'être amants, donc d'une relation homosexuelle, sachant que l'homosexualité était illégale à cette époque, ça pouvait avoir des conséquences très très graves. Et là, les historiens se demandent si c'était de la pure calomnie ou si en fait ils partageaient son secret et qu'ils avaient été surpris alors qu'ils étaient amants. J'ai essayé de rester un petit peu subtile, mais je suis partie du principe qu'ils avaient quand même une relation amoureuse, ou en tout cas une attirance l'un pour l'autre. J'ai beaucoup hésité à le faire parce que c'est vrai que ça m'ennuie toujours quand on parle de femmes formidables, d'aller tout de suite partir sur leur relation romantique avec des hommes et tout. Mais je trouvais que ça, en le faisant de manière assez subtile, je trouvais que pareil, ça permettait de parler de ses renoncements. Et du fait qu'elle avait choisi une vie intellectuelle et une vie d'accomplissement professionnel aux dépens d'une vie sentimentale et voire par la suite d'une vie même amicale, parce que quand Charles Somerset est décédé, elle a probablement perdu son seul confident et peut-être la seule personne qui partageait son secret.
Ben c'est pas une des minces réussites de ce livre que cette subtilité avec laquelle vous mettez en scène la relation entre Somerset et Barry, je trouvais, et puisque vous avez un peu dévoilé une partie de la fin, la scène dans laquelle cet enfant arrive est aussi très belle. Une question encore, Agnès Maupré, quand même sur les couleurs. Le dernier livre que vous aviez publié, en tout cas le dernier que j'avais lu de vous, c'était une adaptation du Bonheur des Dames de Zola. Ce n'est pas vous qui aviez fait les couleurs, mais en tout cas l'album était totalement chatoyant, comme il se doit, dans les grands magasins du 19e. Ici, en Afrique du Sud, on aurait pu aussi imaginer quelque chose de très coloré, très vif. Et vous avez choisi des couleurs, il y en a plutôt en général 3 ou 4 par planche, pas plus, qui sont pas toujours les mêmes, avec une teinte un peu globalement, je dirais, sépia. Et puis je voudrais vous poser une question en particulier sur la couleur de l'uniforme anglais que vous avez choisi, l'uniforme, la tunique rouge des Anglais, vous l'avez rosie un petit peu, elle est un peu rose, est-ce que c'est...
Alors honnêtement, c'est un peu aussi la façon dont les couleurs sortent à l'impression.
Ok, ça c'est toujours une donnée à prendre en compte.
Je sais pas, je me suis pas dit tiens je vais le faire rose. D'accord. Non, c'était pas si...
Et alors sur la teinte générale, parce qu'il y a certaines pages qui sont en teinte de brun ou de beige et en blanc.
C'est vrai qu'au Bonheur des Dames, j'ai vraiment essayé de dépeindre la façon dont on a construit cette supposée frivolité de la femme et déposer des corolles de fleurs sous les pas délicats de la féminité. Donc là, ça a imposé beaucoup de frou-frou et beaucoup de nuances de couleurs. Et effectivement, James Barry est un personnage qui n'est pas du tout dans la frivolité du féminin. Et tout ce à quoi elle aurait eu droit de par sa naissance à ce niveau-là, elle y a renoncé pour aller vers le sérieux masculin. Et pour moi, cette époque-là, le 19e siècle, c'est vraiment aussi une époque où on a beaucoup séparé l'homme qui doit être sérieux et qui n'a droit à aucune frivolité et la femme qui n'a droit à aucun sérieux et que de la frivolité, ce qui, à mon avis, a autant lésé les deux parties.
J'ai pensé que c'était simplement un petit peu de rhumatisme et je n'ai rien fait. Je suis allée me coucher un soir et le lendemain, je me suis réveillée avec des douleurs terribles dans les os.
J'ai commencé à avoir des problèmes de dents.
Parmi les filles que je connaissais et qui avaient travaillé à l'usine, beaucoup ont commencé à mourir, rapidement, de manière alarmante. C'étaient toutes de jeunes femmes en bonne santé. Ça semblait bizarre.
Un extrait d'un documentaire de Marie Chartron et Laurent Polleret sur les Radium Girls dans une histoire particulière sur France Culture. Vous trouverez sur le site du Rayon BD un lien vers cette émission. Si je parlais des couleurs avec Agnès Maupré, alors peut-être qu'on pourrait commencer par là. Vous avez utilisé 8 couleurs pour votre livre, 8 crayons de couleur. Ça, je l'ai lu, j'aurais pas su qu'ils étaient 8, mais entre le vert radium, le vert un peu phosphorescent et un camailleux de rose, de mauve, de violet. Alors c'est tout à fait réussi, c'est très beau. Mais pourquoi ce parti pris formel ?
Alors, il y a un parti pris technique qui veut dire aussi moins t'as de couleurs, moins tu fais de fautes de goût, potentiellement. Et aussi, il y avait ce côté que j'avais envie d'en... En fait, j'avais envie que le radium soit partout, tout le temps, présent par la couleur. Il est sur quasiment toutes les planches, à moins qu'il y en ait une qui passe, vous allez en trouver une.
Non, c'est pas ce que j'essaye de faire.
Mais effectivement, il est partout parce qu'il devient omniprésent à partir du moment où elle rentre dans l'entreprise. Donc c'est ça aussi, et j'avais envie d'avoir cette gamme très serrée pour aussi voilà, mettre en avant, donc pour moi, la gamme du violet mettait largement en avant en fait, le radium, qui est aussi... une star funeste de cette bande dessinée.
Alors j'ouvre en effet votre livre, mais à une page sur laquelle j'aimerais vous interroger, puisque c'est une histoire, il y a une grande part de souffrance dans cette histoire des Radium Girls.
Tout à fait.
Et vous avez plusieurs fois dans le livre des pleines pages comme celle que je tiens sous les yeux, alors où on voit une de vos héroïnes, à chaque fois une héroïne, une des Radium Girls, nue, transpercée par des rayons. À la fois, c'est montré avec à la fois beaucoup de pudeur et en même temps on voit vous figurez la souffrance. Ça ressemble un peu à des images saintes presque. On a l'impression que c'est les rayons de,
ouais,
les rayons de Dieu
aussi.
Qui viennent, et avec une esthétique un peu constructiviste qui montre un peu l'époque. Comment est-ce que vous avez choisi aussi de faire ces pleines pages pour montrer la souffrance, mais sans en dire trop?
Mais en fait, tout à fait. En fait, ces planches ponctuent en fait l'histoire à des moments fatidiques, parce que la première planche n'arrive pas à n'importe quel moment. En fait, je voyais ça un peu comme des coups de semonce qui nous amènent à une bascule dans l'histoire. Et effectivement aussi, j'ai un trait qui est quand même assez simple, etc. Où j'avais envie aussi de montrer que en fait, elles sont brisées. Enfin, elles sont brisées par le radium. Donc, j'avais une envie de montrer ça par, en l'occurrence, des pleines pages. C'est marrant parce que là où vous me dites que vous me parlez d'images saintes, moi, on m'a dit, oh, il y a un aspect pénitentiaire. On y voit beaucoup de choses. Ça projette énormément de choses. C'est tout à fait, ça me va très bien. Mais effectivement, je voulais montrer ces radium girls vraiment brisées dans leur chair, en fait.
Alors vous parlez de bascule, parce qu'en effet ça commence, d'ailleurs votre livre commence par des pages muettes, d'ambiance, on voit la publicité omniprésente dans ces États-Unis des années de la fin des années 1910 ou du début des années 1920, et on voit en particulier, c'est pas anodin, des publicités pour des cosmétiques, pour du dentifrice, au radium. Le radium à cette époque, c'est un produit qui est à la mode, et c'est un produit qu'on pense bon.
Ah oui, tout à fait. Hein. Quand ça arrivait, quand Marie Curie l'a découvert, la société de consommation s'en est emparée et ils ont fait tout et n'importe quoi au radium. On pourrait la poser. Moi, je dis maintenant, c'est comme si on découvrait 20 ans plus tard que l'aloe vera, c'était pas bon. On en met partout de nos jours et vraiment, c'était l'élément miracle. Ils ont foutu partout des laines pour bébés, des cosmétiques et tout. Donc, effectivement, elles avaient à aucun moment, elles pouvaient pas savoir que c'était mauvais. Vu qu'on en baignait dedans, littéralement.
Mais il y a pourtant, donc, vos personnages sont des ouvrières qui travaillent dans une usine dans laquelle elles peignent en mettant à chaque fois le pinceau dans leur bouche des montres phosphorescentes. Il y a quand même une autre pleine page où on voit une belle vue de cette usine. Au rez-de-chaussée, les ouvrières qui peignent en trempant le pinceau, enfin en mettant le pinceau sur leurs lèvres. À l'étage, les ingénieurs, des hommes pour la plupart.
Que des hommes.
Que des hommes qui manipulent du radium avec des tabliers en plomb, avec des masques comme ceux qu'on porte aujourd'hui sur le visage, et avec des instruments en métal. Donc il y avait quand même une conscience assez nette du danger chez certains des responsables industriels qui savaient quand même à quoi ils exposaient leurs ouvrières.
Ben, en fait, il y avait ce petit côté, c'est un peu vicieux parce qu'ils partaient du principe que le radium était dangereux à synthétiser, mais une fois qu'il était synthétisé, bon, il y avait un gros effet autruche tête dans la terre, hein, clairement, où à partir du moment où il était synthétisé, les femmes pouvaient l'utiliser et ce n'était pas grave. Ce qui était largement faux, hein, ne touchez pas au radium. Mais vraiment, oui, ils utilisaient des tabliers de plomb et même Marie Curie s'est brûlée en manipulant, en découvrant le radium. Donc, en l'occurrence, voilà, oui, c'est vrai que c'était pour montrer aussi ces strates, cette hiérarchie excessivement verticale du patriarcat dans cette société qui a été dévastatrice.
Et donc ces strates, cette hiérarchie, cette connaissance ou non de la dangerosité du radium seront au cœur du procès que les Radium Girls vont mener au fur et à mesure des années 20. Trop tard pour la plupart d'entre elles, il y en a qui sont mortes très vite, il y en a qui mourront pendant le procès. Le procès et la lutte, et la souffrance d'ailleurs, ne sont pas, j'allais dire, le cœur de votre livre. On sent que vous avez voulu, ça arrivera à un moment dans le livre, mais on sent que vous avez surtout voulu regarder et laisser vivre ces jeunes femmes qui ont eu une vie, qui a été marquée par la souffrance, mais sur la couverture, on voit 6 jeunes femmes hilares, ou en tout cas souriantes. On sent que c'est d'abord ça que vous avez voulu montrer, ne pas les résumer à des égéries de la lutte ou du combat.
Tout à fait. En fait, je voulais leur donner du corps, parce que quand on parle des Radium Girls, on fait « Ah, ces pauvres victimes ». Alors certes, elles ont été victimes. C'est pas sale d'être victime. En fait, il faut pas oublier que victime, c'est pas une identité. Il y avait des femmes qui ont vécu, ces femmes jeunes qui ont vécu clairement leur meilleure vie au début. Hein. Elles avaient le meilleur salaire qu'elles pouvaient avoir. Elles venaient du middle class. C'est comme si elles travaillaient chez Dior ou Lanvin, parce que le radium était très très cher à synthétiser. Et donc oui, moi je voulais... En fait, j'avais pas du tout envie d'être. Je voulais pas que le lecteur soit un espèce de spectateur omniscient. Je voulais qu'on soit la 7e fille de ce groupe, avec les mêmes choses qu'elle savait. Je parle pas de Marie Curie dedans, parce qu'en fait, il y a de fortes chances que ces filles ne savaient même pas qui c'était Marie Curie. Donc, en l'occurrence, je voulais en fait qu'on s'attache à ces femmes.
En revanche, vous parlez de la prohibition qui oui. commence au niveau fédéral dans les années 20, mais qui était peut-être déjà dans le New Jersey en 1918-19. Vous parlez de la longueur des maillots de bain sur la plage, de la longueur autorisée des maillots de bain. Vous parlez de la danse dans des speakeasy plus ou moins clandestins. Ça, c'est le quotidien de ces Radium Girls. Et c'est ça que vous avez voulu faire. Encore une fois, on sent que vous les regardez et que vous prenez du plaisir presque à les regarder vivre et à les regarder se réjouir.
Ah oui, j'ai beaucoup d'affection pour ces Radium Girls. Alors qu'évidemment, je me suis renseignée, bien évidemment, j'ai pris comme base des bouquins qui parlaient, qui reprenaient leurs journaux intimes. Mais bien évidemment, j'ai calqué mes propres émotions sur ces femmes. Je sais pas à quel moment, à ce moment-là, elles ont dit ça. Non, j'en ai aucune idée parce que l'histoire a tendance à effacer les émotions. Donc, on garde juste le factuel. Quand l'histoire n'est pas supprimée complètement, nous-mêmes nous savons que les femmes dans l'histoire. Mais oui, j'avais envie de s'intéresser à ce qui a forcément impacté la vie de ces femmes.
Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues aujourd'hui dans le Rayon BD. Je rappelle donc le nom de vos livres. Pour 6, c'est Radium Girls, paru chez Glénat dans la nouvelle collection Karma. Et Isabelle Bottian et Agnès Maupré, vous signez La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Berry, née Margaret Bulkley, chez Steinkiss. Vous pourrez trouver les références de ces livres à la page du Rayon BD sur le site de France Culture, franceculture.fr. Une page sur laquelle vous pourrez en outre télécharger cette émission et même vous abonner au podcast du Rayon BD. Et on se quitte avec la musique d'une femme qui a évolué dans un monde assez masculin, elle aussi, une contemporaine de ces Radium Girls, Germaine Taillefer, et son impromptu pour piano. Comme chaque semaine, l'émission d'aujourd'hui était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Alexandre Manzanares. C'est Olivier Arnaud qui nous accompagnait aujourd'hui à la technique. Dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne.